Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Ça fait débat sur Europe 1 ce soir. Alors que les prix de l'énergie augmentent, plusieurs pays voisins cherchent à encourager les trajets en train, notamment à l'aide de tarifs attractifs jusqu'à la gratuité pour alléger le budget des ménages et limiter les émissions de CO2. On en débat avec vous, Eva Sas. Bonsoir. Bienvenue. Porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, députée de la 8e circonscription de Paris. Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Maire de Mency, vice-président de la communauté de communes du Val d'Essonne, vice-président de la région Île-de-France. Et puis, à distance avec nous dans un instant, Benoît Borda, député Renaissance de la Côte d'Or. Vous vous souvenez de ce slogan des années 90 ? À nous de vous faire préférer le train. Bah, pas sûr qu'on soit d'accord avec ça aujourd'hui. Vous allez me répondre. Parce que le train, c'est devenu tellement cher qu'on doit probablement choisir entre prendre le train à la dernière minute pour une urgence familiale, par exemple, ou se nourrir. J'ai fait un essai tout à l'heure, j'ai pris mon téléphone. Vous savez, il y a une application SNCF et j'ai tapé, comme ça, par hasard, un Bordeaux-Paris ou un Paris-Bordeaux. D'après vous, Eva Sas, tiens, combien ça coûte là, tout de suite ?
Paris-Bordeaux, 200 euros.
C'est exactement ça, 200 euros. Il faut aujourd'hui devoir faire des choix. On adorerait se passer de la voiture. Ce serait formidable, ça nous coûterait moins cher, on polluerait moins, voyez ? Mais on ne peut pas, on fait quoi ?
Bah, justement, vous parliez des expériences qui sont faites aujourd'hui en Allemagne et puis à la rentrée en Espagne. Je pense qu'il faut tout à fait s'inspirer de ces expériences qui permettent, en l'occurrence en Allemagne, de mettre pour 9 euros par mois tout le réseau régional à disposition des gens. Le train devient accessible et il y a eu un engouement terrible en Allemagne. Et je pense que c'est vraiment une expérience très positive. On cherche des mesures pour aider le pouvoir d'achat. Là, c'est une mesure de pouvoir d'achat qui, en plus, respecte l'environnement et qui permet d'aller vers le modèle qu'on souhaite, c'est-à-dire un modèle moins dépendant de la voiture. Je crois qu'on a tous conscience maintenant qu'on a besoin de se libérer de cette dépendance à la voiture. Ça fait partie de la solution. Et vous avez tout à fait de raison de dire que non seulement c'est cher, le train, mais en plus, c'est complexe, les tarifs. Et donc, le bénéfice de cette mesure, c'est aussi ça. C'est la simplicité du tarif, parce qu'aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus dans la jungle des tarifs, y compris dans ceux de la SNCF.
Alors justement, Benoît Borda nous rejoint à l'instant, à distance, député Renaissance de la Côte d'Or. Monsieur Borda, est-ce que c'est un sujet sur lequel le gouvernement travaille ? Eva Sas en parlait à l'instant, l'exemple allemand qui marche très fort, ce fameux ticket pour 9 euros environ, qui permet l'accès à plusieurs transports en commun. Ça pourrait être une possibilité ?
Oui, alors je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que il y a d'un côté, vous l'avez dit, les tarifs assez chers, c'est vrai, des lignes à grande vitesse, des grands trajets, on va dire, nationaux, quand vous faites Paris-Bordeaux, ou même quand vous faites, moi, Paris-Dijon, qui sont des tarifs assez élevés. Et puis, il y a les tarifs régionaux avec les TER, et là, c'est de la compétence qui est plutôt des régions, où les régions, elles ont déjà pris en main toute la question de la tarification, en faisant des tarifications pour les jeunes, pour les personnes sans emploi. Et donc, il y a des régions qui sont très volontaristes, comme en Bourgogne-Franche-Comté, je le cite, c'est ma région, avec des tarifs qui ont permis de retrouver de la présence dans les réseaux, dans les trains, et donc qui ont révélé une certaine efficacité. Maintenant, sur le réseau des grandes lignes, c'est vrai qu'il y a une question tarifaire qui est importante, qu'il faut évoquer. Et puis, il y a une volonté, alors on ne l'a pas dit, mais il y a une volonté du gouvernement à la fois de s'occuper, en lien avec les régions, des petites lignes, du désenclavement des territoires ruraux, et puis un objectif aussi de développer les lignes à grande vitesse, les grands trajets nationaux, voire les grands trajets européens.
Vous êtes Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France. Votre confrère, Benoît Borda, l'on vient d'entendre, appelle notamment à la présidence des régions d'agir, de prendre leur part de responsabilité. Qu'en pensez-vous ?
Elles le font. Il y a véritablement deux sujets. Il y a les transports LGV et les transports du quotidien, des réseaux urbains, des grandes agglomérations. Sur les grandes agglomérations, si on prend l'exemple de l'Île-de-France, on est sur des tarifs qui sont relativement bas. On est sur un pass Navigo à 75 euros. On est sur une carte imaginaire pour les étudiants à moins de 1 euro par jour, pour bénéficier de l'ensemble des transports et d'autres réductions. Et le problème ne joue pas tant en termes de gratuité qu'en termes de qualité de service. Les études sur ce type de réseau qui ont été faites montrent que la gratuité n'entraîne pas d'effet de report, ou alors sur des gens qui utilisaient essentiellement le vélo ou la marche à pied en secteur très dense. Donc, sur les réseaux denses, le problème est plus la qualité de la desserte, le nombre de dessertes, le désenclavement d'un certain nombre de zones, et ça, ça nécessite de l'investissement. Mettre la gratuité sur ces secteurs-là, c'est supprimer 30% de recettes et c'est donc ne plus être capable d'investir. Mmh. En Île-de-France, on est sur un des régions avec le ticket de métro le plus bas. On est à 1,90€, vous allez à New York, c'est à 3€. À Londres, c'est plus élevé. Donc, on est déjà sur des tarifs
qui sont extrêmement
bas.
Le pouvoir d'achat n'est pas le même, ni à Londres,
bas.
Ni
oui,
à New York.
Mais
hein,
on est
sur
des tarifs
sur un
très
niveau.
Bas et on a des aides ciblées sur les chômeurs, sur les personnes âgées, sur les jeunes. Le problème qui se pose beaucoup plus, et là, c'est la concurrence avec l'avion et avec la voiture, c'est sur les grandes lignes, c'est sur les grands transports, où là, il y a des expérimentations effectivement qui sont lancées dans d'autres pays qui peuvent être intéressantes. Et moi, je suis curieux de voir ce qu'elle donne en termes d'effet report sur l'usage qui est fait par les voyageurs.
On va en parler dans un instant. Vous parliez de concurrence, justement. Est-ce que la SNCF, elle, manque de concurrence et donc peut faire les prix qu'elle veut en réalité? Vous vous rappelez les factures de téléphone mobile avant qui étaient exorbitantes et d'un seul coup, Free est arrivé sur son cheval blanc, etc. Et ça a quand même drastiquement baissé, c'est une réalité. Il y a des concurrents qui sont en train de se positionner par rapport à la SNCF, notamment dans le Grand Ouest. Ils ont encore du mal à pouvoir récolter les fonds nécessaires pour faire cette fameuse ligne avec le Paris-Bordeaux, aller à La Rochelle ou aller plutôt du côté de Poitiers. Est-ce que la concurrence est vastasse pour vous? Ce serait positif, une concurrence positive pour avoir un meilleur prix?
Non, je crois que ce n'est pas la piste qu'il faut explorer. Je pense qu'il faut vraiment, pour le coup, une aide massive de l'État sur cette question-là, avoir une vraie volonté politique de développer l'offre ferroviaire. Et vous aviez raison, pour qu'il y ait un véritable report modal, il faut une alternative, il faut donc des financements, oui, pour développer l'offre ferroviaire. Et c'est pour ça que Jean-Pierre Farandou, par exemple, demande 100 milliards sur 15 ans, la moitié à la charge.
110 milliards exactement, c'est ce qu'il a demandé.
La moitié à la charge de l'État. Ouais. Et je pense qu'il faut suivre Jean-Pierre Farandou sur cette loi, parce que c'est vrai que pour avoir un véritable engouement et une véritable offre qui aille jusque dans les territoires au plus fin, qui soit une véritable alternative à la voiture, on a besoin d'un investissement massif. Alors vous allez me dire comment on finance tout ça, surtout si on fait le ticket climat à 30 ou 50 euros, comme c'est proposé maintenant par les écologistes en Allemagne.
On va demander à Benoît Bordin, si vous le permettez. Benoît Bordin, on a l'enveloppe des 110 milliards d'euros pour aller au secours de la SNCF?
Bon, on a trouvé des enveloppes à un moment donné quand il a fallu renflouer la SNCF. Et bon, je voudrais revenir sur l'ouverture à la concurrence. Moi, je pense que la concurrence, elle a évidemment du bon. Elle permet de booster les différents opérateurs, d'obliger la SNCF au bouger. Il vous aura pas passé par ailleurs que la SNCF, là, elle a annoncé une commande à Alstom de 15 rames de TGV pour 590 millions d'euros. Donc, d'ailleurs, la période 2024-2034, je crois que c'est une centaine de rames TGV. Donc la SNCF, elle passe un cap avec des rames TGV qui vont être moins consommatrices d'énergie, qui vont permettre de transporter plus de passagers. Donc on peut espérer aussi que ça participe au développement de l'offre de services et d'une baisse des prix à moyen terme.
D'accord. Le carburant, lui, il a drastiquement augmenté ces derniers temps. On est tous impactés, même si ça devrait baisser un petit peu là, septembre, octobre. Mais ça ne va pas durer, hein, malheureusement. Malgré les lois, malgré les boucliers tarifaires, dans le même temps, la planète se réchauffe. On ajoute à cela que le pouvoir d'achat est en train de diminuer. On ajoute à cela que l'inflation est en train d'augmenter. Comment on incite les concitoyens à laisser la voiture au garage pour préférer le train alors qu'ils n'arrivent même pas à acheter une baguette de pain?
Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut une mesure qui soit pérenne. Parce que comme vous le dites, quand on achète sa voiture, déjà c'est un coût. Ensuite, il faut payer l'assurance. Donc ce n'est pas une mesure, comme ça a été mis en Allemagne pour 3 mois, qui va vous inciter à abandonner votre voiture. Donc il faut vraiment une mesure pérenne, simple, comme on le disait. Avec un forfait mensuel qui permette d'avoir une lisibilité dans les tarifs. Et puis, il faut améliorer l'offre, c'est ce qu'on disait pour le coup. Et je reviens à la question du financement. Nous avons une proposition. Nous sommes un peu des Robin des Bois, donc nous proposons en l'occurrence d'être les Robin des Bois des transports, de prendre à l'avion pour donner au train. Et nous proposons par exemple d'avoir une éco-contribution sur l'aérien. Aujourd'hui, l'aérien est une forme de petit paradis fiscal. Comme vous le savez, il n'y a pas de taxe sur le kérosène, il y a une TVA réduite sur les billets d'avion. Donc si on avait une éco-contribution comme le proposait la Convention citoyenne pour le climat, on pourrait dégager ces financements qui sont nécessaires à la fois pour financer ce ticket climat et pour financer l'amélioration des réseaux.
Vous êtes d'accord, Jean-Philippe Dugoin-Clément? On enlève à Paul, on le déshabille pour habiller Jacques, en fait, vous savez cette expression?
Là, c'est effectivement, c'est tirer la couverture d'un côté ou de l'autre, mais ça n'est pas augmenter massivement les investissements sur les transports en commun. Alors, on peut se poser la question de l'aérien. Ce qui est vrai de l'aérien, on est sur un secteur qui a été totalement sinistré avec la Covid et entre les propositions de la Convention climat
qui ont
été faites
avant
Covid. Enfin, quand on prend le sauvetage d'Air France par le gouvernement, c'est plusieurs milliards qui ont été réinjectés pour sauver une compagnie nationale. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas ? On se rend compte que le secteur aérien revient assez rapidement sur un étiage pré-Covid en termes d'activité, donc la question pourra se reposer. Mais on sort quand même de deux années où on aurait tué un secteur avec des dizaines de milliers d'emplois induits. Le véritable problème aujourd'hui sur les transports du quotidien en termes de RER, mais on pourrait, en termes de grandes lignes, mais on pourrait poser la question également des bus, parce qu'il y a des endroits où le secteur bus avec des bus propres sont aussi une solution quand on est sur des zones beaucoup plus rurales ou beaucoup moins urbaines. C'est une question d'investissement massif pour garantir une qualité de service. On s'axe énormément sur le coût. Très sincèrement, le principal problème, le coût est une réalité, mais le principal problème, c'est le niveau de desserte. Quand vous êtes dans des secteurs ruraux, avec deux ou trois dessertes le matin, deux ou trois dessertes le soir, une heure d'écart entre chaque desserte. Le problème n'est pas de savoir si vous payez 75 euros de passe Navigo remboursé à 50% par votre employeur, mais si vous pouvez avoir un train ou un bus qui vient vous chercher et vous ramener chez vous.
Je vais vous donner la parole dans un instant, Eva Sas, mais Benoît Bordage, je rappelle que vous êtes donc député Renaissance de la Côte d'Or. Cette grande question...
Alors là, c'est important que vous le disiez, la Côte d'Or, parce que moi j'ai une circonscription avec une partie très urbaine où on n'a pas de problématique de transport en commun, où tout se passe bien, où c'est facile de quitter sa voiture, de prendre le vélo, de faire la marche à pied. Mais j'ai 76 communes dans cette circonscription, dont une soixantaine sont des communes très rurales. Et très peu sont desservies et ne peuvent pas être desservies par des trains. Donc la
mais
voiture.
Mais que fait Renaissance alors ? Que fait le gouvernement ? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre puisque vous le reconnaissez ?
Il y a les perspectives sur. La possibilité d'acquérir en location des véhicules électriques pour 100 euros par mois. Mais il y a aussi, on est en lien avec les maires en local, c'est aussi de promouvoir des lieux pour faire du télétravail avec des maisons de service en rural pour que les gens aient moins de déplacements à faire et puissent finalement travailler sur leur lieu de vie. Ça, c'est des options sur lesquelles moi je travaille sur ma...
Monsieur Borda, vraiment la solution voiture électrique ou télétravail, non, la vraie solution, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les petits villages à qui on ferme les gares et où il n'y a plus de TER ? Parce que la solution, vous pensez bien, soyons sérieux, c'est pas la location de voitures électriques.
Oui, là, bien sûr, mais alors, sur celles où il y a des gares ou des possibilités de rouvrir des gares ou des petites lignes, il y a aujourd'hui des perspectives sur des trains légers. Là, il y a une expérimentation qui doit être menée à partir de 2024, alors sur des territoires que je ne connais pas encore, mais avec des trains légers qui pourraient fonctionner à hydrogène ou électrique et qui permettraient plus de souplesse et de rouvrir des petites lignes. Et aujourd'hui, pareil, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des zones dans le cadre des contrats de plan État-région qui ont été faits entre l'État et les régions pour rouvrir des petites lignes. Je rappelle qu'il y a près de 1500 km de réseau au niveau national de petites lignes qui ont été rénovées et qu'on va pouvoir poursuivre la rénovation et la remise en place des petites lignes dans les différents territoires.
On a les moyens, vous nous le confirmez.
Ben, il y a des moyens qui sont mis en place à travers les contrats de plan État-région et à travers les investissements de la SNCF.
Eva Sas, vous êtes d'accord avec tout ça ?
Il y a effectivement eu un appel à projet transport urbain qui a été lancé, donc il finance des tramways et puis comme vous le disiez, des bus au niveau de service. C'est vraiment cette problématique du dernier kilomètre qu'il faut traiter effectivement pour avoir une véritable alternative à la voiture. Ça a été dit, dans ce que propose Jean-Pierre Farandou, par exemple, il propose des RER métropolitains autour de 13 grandes villes en France. Ben déjà, on va avoir beaucoup plus de gens qui seront desservis par cette offre de service. Donc, une fois de plus, il faut suivre Jean-Pierre Farandou sur le plan qu'il propose. Et puis après, il y a des solutions comme le covoiturage, le transport à la demande en milieu rural.
C'est quoi le transport à la demande ?
C'est des lignes virtuelles qui fonctionnent avec des petites navettes et qui s'arrêtent en fonction de la demande. Mais vous avez d'abord fait une demande préalable. Donc tout ça, c'est un ensemble de solutions. On sait très bien qu'en matière de transport, de toute façon, c'est...
Il n'y a pas de solution miracle.
Il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir tout utiliser. Mais si on a une volonté, une constance pour aller vers un monde de transport qui sera moins dépendant de la voiture, je pense qu'il faut y aller de façon sérieuse. C'est pour ça que quand vous dites qu'il faut préserver le transport aérien, moi, je trouve ça dommage parce qu'en ménageant le chèvre et le chou, finalement, on ne fait pas de choix politique. Et là, je pense qu'il faut prendre une option claire. C'est pour ça que le ticket climat, c'est un très bon vecteur d'envoyer un message à la société. Voilà, la mobilité de demain, c'est la mobilité respectueuse du climat et c'est tout d'abord le transport ferroviaire qui va être le fer de lance de cette mobilité durable.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, je vous donne la parole dans un instant, Benoît Borda. Jean-Philippe Dugoin-Clément, le Luxembourg est allé encore plus loin. Dites-nous si c'est possible en région Île-de-France. D'accord, localement vraiment, notamment depuis le 29 février 2020, c'est le premier pays du monde à rendre tous les transports publics gratuits. Tous les transports, les bus, les trams, etc., enfin leur RER, etc., pour tous. Ils vont vraiment plus loin pour les résidents et même pour les étrangers. Alors forcément, ça a un coût, 41 millions, financé par la fiscalité.
Très bien. En Île-de-France, la gratuité est quelque chose que nous ne prônons pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable et pas responsable.
Pourquoi?
Pour beaucoup de raisons. En fait, c'est une fausse bonne solution qui d'ailleurs n'est même pas demandée par les associations d'usagers des transports. La FNOT s'est prononcée contre, la FNOT qui est la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports.
Et comment elle le justifie justement?
Déjà, ça veut dire qu'en Île-de-France, c'est supprimer 30% des recettes de fonctionnement. 30% des recettes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'investit plus. Sur une région comme l'Île-de-France qui a déjà un maillage de transport extrêmement dense, le problème est d'augmenter ce maillage de transport, de créer de nouvelles lignes, de renforcer la structure des lignes et donc d'investir. Et donc, c'est se priver d'un montant de recettes absolument colossal. La deuxième chose, mettre une gratuité des transports, outre le fait que ce qui est gratuit n'a plus de valeur et ça pose une question de respect même du matériel et de l'usage qui en est fait. La deuxième chose, c'est une très grosse partie des financements des transports sont prises par les entreprises au travers de la contribution transport. À partir du moment où on est sur une gratuité, les entreprises ne voudront plus payer. Il y a déjà des contestations de la part du MEDEF pour payer et donc on risque de tuer le financement des transports. En Île-de-France, nous avons déjà un tarif du billet, ce que je vous disais tout à l'heure. Si on prend en indicateur le ticket de métro, qui est un des plus faibles des grandes métropoles mondiales.
Mais qui donc, a quand même sacrément augmenté en quelques années.
Le tarif du pass Navigo est stable. La carte imaginaire n'a pas augmenté depuis 6 ans alors qu'on est à 6% d'inflation cette année et qu'on a connu 11% d'inflation sur les 6 dernières années. Et dans les sujets que nous portons avec Valérie Pécresse sur la région Île-de-France, c'est de maintenir cet effort. On est à moins de 1 euro par jour pour les étudiants. On pratique des quasi-gratuités ciblées quand on est sur les personnes âgées, sur les jeunes, sur les chômeurs, au travers des aides qui sont prises. Et donc nous croyons beaucoup plus à des aides ciblées qu'à des aides généralisées qui, à la limite, vont bénéficier à des gens qui, pour certains, n'en ont pas besoin. Toutes les études que nous avons, y compris de la part de la SNCF, de la part de l'ensemble de nos partenaires, montrent qu'il n'y a pas d'effet de report modal. L'effet du report modal peut, pardon, peut se concevoir sur des grandes lignes, sur des TER, mais sur des réseaux du type d'un réseau comme en région Île-de-France, il n'y a pas de report modal.
Benoît Borda, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Ben, moi, je suis plutôt d'accord avec lui parce qu'on a cette même politique, nous, en région Bourgogne-Franche-Comté et même à la métropole de Dijon où j'ai été élu un certain nombre d'années, où on a souhaité garder un tarif sur l'utilisation du réseau de tramway, par exemple, mais à des moments occasionnels, par exemple comme cet été, donner la possibilité aux moins de 26 ans d'avoir le transport gratuit pendant les mois de juillet et mois d'août, voilà, pour leur redonner la possibilité l'été d'utiliser ces transports. Mais je pense que c'est essentiel qu'il y ait encore une ressource via un paiement par l'usager, en fonction de ses revenus, en fonction de sa situation professionnelle. Je rappelle aussi que les entreprises, elles peuvent prendre en charge une partie de l'abonnement en transport. Et donc, ça permet de garder des transports de qualité. Nous, ça nous permet aujourd'hui, par exemple, au niveau de la métropole dijonnaise, d'investir dans un site hydrogène, de porter avec des entreprises locales un site de production et d'hydrogène et d'ici moins de 10 ans d'avoir un parc de bus qui fonctionne à l'hydrogène.
Eva Sas, qu'est-ce que vous pensez, vous, tout cela? Pourquoi? Juste une question, j'essaie personnellement de comprendre pourquoi en France on est le seul pays qui ne travaille pas soit sur le ticket, soit sur la gratuité. Vous l'avez très justement expliqué avec des raisons les uns les autres, mais vous, qu'en est-il?
Alors déjà, le ticket, ce n'est pas la gratuité. Et
c'est 9 euros, c'est 9 ce euros dont vous
par mois. Et c'est vrai que ça ne va pas être pérennisé à ce niveau-là. On espère que ça sera pérennisé à un niveau plutôt entre 30 et 50 euros par mois, ce qui n'est pas le même niveau. Mais je vais être d'accord avec les interlocuteurs précédents pour dire qu'il faut préserver l'investissement. C'est vraiment fondamental. Mais on peut faire les deux en même temps. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur l'éco-contribution, mais vous défendez l'aérien, pardon. Mais c'est quand même
Non, je vous dis que vous n'irez pas à New York ou à Pékin en train. C'est une réalité. Et si vous voulez demain mettre au chômage l'ensemble des salariés d'Air France ou du pôle de Roissy, il faut le dire aussi.
Entre
défendre le train sur des courts moyens trajets, sur des trajets nationaux, sur des trajets européens, ce qui est une évidence, et dire qu'il faut supprimer l'aérien et mettre en faillite Air France, y a quand même des limites. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas
non,
dit.
Non, c'est vous qui caricature mon propos. Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer l'aérien. Je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, il bénéficie d'énormément d'exonérations fiscales. C'est pour ça que l'avion est peu cher et qu'il se développe de plus en plus. Il faut avoir une fiscalité normale et qui prenne en compte le climat sur l'aérien. Et donc, une éco-contribution qui pourrait aller de 30 euros sur les vols intérieurs jusqu'à 400 euros sur les voyages en affaires à l'international, ça me paraît juste, parce que d'abord, ce sont les riches qui utilisent l'avion. Et ça paraît en même temps une source de financement nécessaire, on vient de le voir et vous en avez parlé aussi, pour développer l'offre
et
de transport en France.
L'avion, parfois moins cher que le train, peut-on donc dire que ce sont les riches qui utilisent l'avion plutôt que les plus pauvres? Est-ce que ça n'est pas caricaturer ce qui se passe aussi en ce moment?
Aujourd'hui, il n'y a que 2% des ouvriers qui utilisent l'avion.
Mais prennent-ils le TGV? Parce que comparativement, les prix sont très cher aussi au niveau des TGV sur les longues distances.
Oui, il y a des prix qui sont très chers. Ça tout dépend en fait effectivement de la liaison
que, dont vous parlez. Opposer forcément l'aérien et malheureusement le réseau ferroviaire.
Ah si, je pense qu'il faut l'opposer tout à fait parce qu'il y a une concurrence et qui est parfois déloyale justement parce qu'il y a une fiscalité qui est trop faible. Mais de façon générale, en tout cas les gens qui prennent régulièrement l'avion, ce sont évidemment les plus aisés. Ça a été attesté par toutes
les... Vous parlez donc de régularité.
Par toutes les études, oui. Mais même quand on prend les gens qui prennent une fois de temps en temps l'avion, ça reste les classes moyennes supérieures sur 100 passagers. Il y a 27% des gens qui sont issus des classes supérieures et 2% d'ouvriers. Je pense que le chiffre est quand même parlant. Mmh. Donc c'est clair qu'il faut notamment taxer ce qu'on appelle les super émetteurs, les gens qui prennent très souvent l'avion et qui, eux, ont un impact fort sur le climat. Moi, ça me fait toujours vraiment mal au cœur quand on va taper le petit automobiliste sur son litre de carburant ou de diesel et qu'on ne va pas mettre de 1 euro de taxe sur le kérosène de ceux qui sont les plus riches et qui émettent le plus. Benoît, donc moi, je pense qu'il faut un peu de justice là-dedans. Et
de l'équité, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Benoît Bordas, ce serait possible ce que vient de proposer Eva Sas, taxer aussi les gens qui prendraient beaucoup l'avion, qui auraient des abonnements
en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comparer, c'est quand si on a une alternative possible. C'est-à-dire si vous allez sur un déplacement où vous n'avez pas d'alternative en train pour aller rapidement, par exemple, faire un Paris-Pau, et que c'est plus simple. D'ailleurs, on a des collègues députés qui sont obligés de prendre l'avion parce qu'ils n'ont pas de desserte de train ou qu'il leur faudrait 12 heures ou 15 heures pour en prenant le train. Donc là, moi, je suis assez d'accord qu'on pénalise ceux qui auraient le choix entre l'avion et le TGV. Mais quand on a, comme moi,
10 secondes, Benoît Bordas.
Voilà, il faut, mais autrement, il faut surtout privilégier le développement du train, des petites lignes et puis des lignes à grande vitesse, comme on le prévoit.
Noté. Merci beaucoup, Benoît Bordas, député Renaissance de la Côte d'Or. Merci beaucoup, Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire LR de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Merci beaucoup, Eva Sas, porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, députée de la 8e circonscription de Paris. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on reçoit Christiane Lambert. On se parlera de tout ce qui se passe aussi du côté des agriculteurs. Et c'est pas la folie, hein. Allez, à tout de suite sur Europe 1.